Mémoire vive, présentée par Juliette Sénic et préparée par Rachel Rimmer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour, nous recevons Magali Magne pour parler de son documentaire « Journal filmé d'un exil » soutenu par la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Ce film a pour source les images privées d'un homme qui a filmé sa famille dans l'exil. Cet homme s'appelle Robert Bernas. Il est parisien, originaire d'une famille juive, polonaise et russe, immigré à Vienne. En 1936, à la naissance de son fils Harry, il achète sa première caméra 8 mm Humig. Il fixe les moments de bonheur familial, mais aussi les événements qu'il traverse avant-guerre et pendant la guerre. Robert ne se sépare plus de sa caméra. Il s'en sert comme d'un œil témoin. La famille fuit Paris en passant par Lyon, Marseille, Alger, Casablanca, Lisbonne, avant d'arriver à New York en 1941. C'est tout cela que le cinéaste amateur réussit avec maîtrise, amusement et courage à faire entrer dans le cadre. Il fait ce qu'on appelle du tourné-monté, à savoir que le découpage est pensé à l'avance. D'où la richesse de ces images à plusieurs titres. Elles racontent une manière de faire du cinéma, de mettre en scène sa famille, et elles témoignent à travers cette famille de l'histoire des Juifs d'Europe sous le nazisme et dans l'immédiate après-guerre, puisque le film va jusqu'en 1947 et le retour à Paris. Mais surtout, elles montrent une manière d'être en toutes circonstances. Une famille prend corps sous nos yeux. Magali Magne, vous êtes documentaliste au Forum des images. Vous avez eu accès à ses archives et l'idée d'un film est née. Pouvez-vous nous dire comment cela a pris forme ?
J'ai rencontré Harry, c'était en 2008. Il est venu déposer ses films avec Laurent Roth, qui est un réalisateur aussi de documentaires, et qui avait à l'époque le projet de faire un film avec des archives de familles juives qui auraient été tournées à l'été 39. Voilà, c'est comme ça qu'il a rencontré Harry et puis il nous a présenté Harry au Forum des images. Le film, tout de suite j'ai vu qu'il y avait un film avec cette matière extraordinaire. À l'époque j'étais sur un autre projet, donc je ne pensais pas faire quelque chose avec ces archives. Et puis quand j'ai eu terminé mon précédent film, j'ai dit voilà, c'est celui-là que je vais faire maintenant.
Visiblement, Harry Bernas, le fils du cinéaste, ouais. qui est celui qui commente les images du film, a joué un rôle important dans ce projet. Ouais. Est-ce que vous pouvez me dire un peu comment il a accompagné ce projet, en fait ? Comment le lien s'est tissé avec lui et comment le récit s'est construit avec lui ?
Mais le lien s'est fait petit à petit. Déjà, on avait été avec Alain Esmery, qui était directeur de la production au Forum des images à l'époque. On avait été interviewer Lola pour qu'elle parle sur les images.
Alors Lola, qui est ?
Lola Bernas, qui est la mère d'Harry, qui est donc la compagne de Robert, le cinéaste amateur, sa femme, voilà.
Et qu'on voit dans tous les plans, qu'il sourit perpétuellement.
Ils s'aimaient énormément tous les deux. D'ailleurs, Harry me faisait une réflexion à l'issue de l'avant-première l'autre soir. Il disait « Quelquefois, mon père et ma mère étaient tellement amoureux que je me sentais un petit peu isolée. » Mais il disait ça avec un grand plaisir et des petites étoiles dans les yeux.
Oui, donc Lola, au départ...
Donc, moi, j'ai rencontré Lola, elle avait 97 ans. Et elle revoyait ses images pour la première fois. Donc, il y avait pas mal d'émotions, beaucoup de souvenirs qui réapparaissaient, etc. Et puis, j'ai souvent redemandé des nouvelles de Lola, été déjeuner avec Lola et Harry. Et il y a vraiment une amitié qui s'est faite petit à petit avec Harry. Et puis, quand j'ai commencé à penser à ce projet, j'en ai parlé tout de suite à Harry, et qui était ravi, qui était tout à fait d'accord et qui m'a fait une entière confiance. Il m'a tout laissé fouiller dans ses photos, ses papiers, ses archives, ses lettres. Voilà, il m'a tout mis à disposition.
Alors, quand vous dites ce projet, quel était votre projet à vous ? Parce que c'est pas rien de s'emparer des archives familiales de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que vous aviez à en dire, vous ? Pourquoi vous avez pensé que ces images-là, en fait, méritaient de raconter une histoire ?
Déjà parce que l'histoire se racontait d'elle-même quand on voyait les images. Sauf que, et point très important, si on n'avait pas la petite histoire derrière, si on ne savait pas ce que cette famille avait vécu, On se dirait, oh, c'est une famille voilà, qui traverse la guerre sans trop de soucis, qui s'amuse beaucoup, qui est très joyeuse.
Oui, parce qu'il y a quelque chose qui est très frappant, c'est que d'abord, effectivement, ils sourient tout le temps.
Ouais.
Donc on ne sait pas s'ils le font bah parce qu'en fait, ils sont toujours gays malgré tout ce qui se passe, ou si c'est aussi parce que c'est une mise en scène de soi, comme on le fait aujourd'hui.
C'est un peu des deux.
Oui. On sent qu'il y a beaucoup d'amour qui circule dans cette famille.
Énormément.
Notamment, c'est pour ça que vous m'étonnez quand vous dites que Harry se sentait exclu de l'amour de ses parents, parce qu'on sent un amour incroyable, maternel envers lui. Et il est quand même le déclencheur de la vocation de cinéaste de son père.
Ouais.
Donc c'est vrai qu'ils sont toujours souriants. Bon, ça, on peut comprendre pourquoi. Ils ont surtout l'air assez aisés, toujours bien habillés. Enfin, quand on sait le nombre de départs et d'exils qu'ils ont dû subir, en fait, on s'étonne beaucoup. Donc, on se demande s'il n'y a pas un hors-champ ou s'il n'y a pas... Enfin, voilà, qu'est-ce qu'il a bien voulu montrer et qu'est-ce qu'il n'a pas...
Le hors-champ, on le raconte au fur et à mesure du film avec Harry. Effectivement, on pourrait croire que c'est une famille aisée. Il ne l'était pas, à part le grand-père viennois qui était très, très riche. Les autres n'étaient pas riches du tout. Robert essayait de s'en sortir sans arrêt. En plus, voilà, il a beaucoup aidé sa famille, sa mère, ses frères et sœurs, quand eux étaient restés à Paris et lui était parti à Vienne. Voilà, mais c'était des gens qui essayaient de s'habiller le mieux possible, qui... Alors, effectivement, le propre du film de famille, c'est d'avoir toujours le sourire devant la caméra, parce que on filme les moments de bonheur, les moments de partager en famille. Mais il y a en plus quand même, et ça, Harry insiste bien là-dessus, une famille profondément gaie, joyeuse, qui ne se plaint jamais, qui est toujours dans le moment présent, en fait, et à partager. Et quand ils partagent leur moment entre eux, ils sont dans la joie, parce qu'ils sont ensemble.
Ouais. Alors effectivement, il y a la dimension film de famille, mais à un moment donné, il y a un basculement dans les images, où tout d'un coup, au départ, Robert filme son fils, c'est ça qui est le déclencheur, et puis petit à petit, il détourne sa caméra, et puis il commence à filmer ce qui se passe autour de lui, c'est-à-dire après l'Anschluss.
C'est 3 jours après l'Anschluss, donc on est encore en plein dedans. Mm-hmm. Ils sont tous en train d'accrocher les bannières nazies dans la ville, ils ont tous le brassard, ils sont tous en chemise blanche. Ce que disait Harry, tout était prêt, hein, tout était préparé, on les attendait les bras ouverts quand même. Enfin, les Viennois attendaient les troupes allemandes les bras ouverts.
Ouais. Et ça, c'est extrêmement bien filmé. Donc, enfin, il y a aussi la qualité quand même cinématographique de ces images. C'est-à-dire, enfin, on sent que c'est quelqu'un qui s'amuse à faire du cinéma, enfin, et qui le fait avec soin. Et justement, le fait que ça soit tourné, monté, il y a une vraie réflexion sur le découpage qui a dû vous faciliter un peu la tâche, j'imagine.
Oui, mais c'est-à-dire que j'ai surtout essayé de respecter ça le maximum, pour que le spectateur puisse voir à quel point il préparait ses tournages, à quel point il pensait ses tournages, et à quel point il pouvait être inventif et plein d'humour aussi.
Oui, oui. Ouais. Et une question qu'on se pose, puisqu'on voit que tout d'un coup, il commence à prendre des risques, puisqu'il cache sa caméra pour pouvoir filmer les nazis. Ouais. Enfin, donc, ça devient, c'est plus le gentil film de famille. Là, tout d'un coup, il commence à... Bah, il devient témoin.
Ouais.
Est-ce qu'il a témoigné de ça à son fils ? Enfin, qu'est-ce qu'il lui a dit sur ses intentions et sur son état au moment où il filmait ? Est-ce qu'il pensait filmer pour l'histoire ? Voilà, quel était son état d'esprit ?
Au départ, il filmait pour la famille. Il a jamais... parce que j'ai demandé à Harry, mais pourquoi ton père, quand vous êtes rentré en France en 48, comment ça se fait qu'il n'ait pas fait partie d'un club de cinéastes amateurs ? Il y en avait plein à Paris et en France à ce moment-là. Il m'a dit, bon, d'abord, il n'avait pas le temps. Et puis, deuxièmement, il ne pouvait pas penser une minute que les images qu'il avait prises pourraient intéresser qui que ce soit. Et encore moins... ce qu'il avait pris pendant l'Anschluss, parce que pour lui c'était des images prises à la volée, et il était persuadé que de toute façon il y avait des professionnels qui avaient fait bien mieux que lui, donc il les montrait pas, ces images, il les montrait juste à des amis et à sa famille.
Mais il prenait quand même des risques pour les avoir.
Ah oui, il a pris des risques. Mais si vous voulez, c'était plus pour montrer à sa famille ce qui se passait, ce qu'ils étaient en train de vivre et ce qui se passait à Vienne, qu'autre chose, quoi. C'était pas prévu pour être vu du grand public, pas du tout.
Donc il était en quelque sorte précurseur de ce qui est devenu la lettre vidéo. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, une question que je me pose, c'est qu'au lieu d'envoyer des lettres manuscrites à sa famille, ce qui quand même aurait été plus simple, il envoyait des bobines, ce qui est quand même onéreux, compliqué, risqué. Pourquoi ce choix, en fait? Est-ce que vous en savez quelque chose?
Alors, je sais qu'il avait... Parce que ça se voit dans sa manière de filmer et que ça se voit dans les sujets qu'il filme. Et entre autres, quand il filme l'anniversaire pour l'anniversaire de la grand-mère qui est aux États-Unis, il avait l'intention de les envoyer. Après, s'il les a envoyés vraiment, je ne le sais pas. Harry ne le sait pas non plus. En tout cas, c'est vrai que ces films étaient faits pour être envoyés. Mais bon, il fallait que sur place, la famille ait aussi un projecteur, qu'ils sachent faire fonctionner le projecteur, etc. Donc, j'ai jamais su vraiment s'il les avait envoyés. Mais en tout cas, il les emmenait. Il a emmené tout son matériel avec lui aux États-Unis. Mmh. Et là, Harry, parce que quand il filme l'Anschluss, Harry n'a que 2 ans. Donc, c'est plus tard en étant aux États-Unis qu'Harry, enfin, que son père lui montrait les films qu'il avait faits, donc à Vienne et à Paris. Et Harry les regardait tout seul de temps en temps.
Il avait quel âge à cette époque?
Il avait entre... Il est arrivé en 41, il avait entre 5 et 10, 11 ans.
Donc on peut dire en fait que ces images, c'est intéressant, c'est la mémoire de Harry. Mm. C'est-à-dire, est-ce que finalement ces images ne se sont pas substituées à la mémoire qu'il aurait pu avoir de ce qu'il avait vraiment vécu à cette époque?
Certainement de ce qu'il a vécu à cette époque, oui. Après, aux États-Unis, il s'en souvient vraiment. Mais il m'a quand même dit que il se souvient pas de Vienne. Il se souvient de son premier voyage en train. Et le premier voyage en train, c'était pour partir de Vienne pour aller à Paris. Mmh. Ça, il s'en souvient. Il a des réminiscences, on va dire. Est-ce qu'il se souvient de tout le voyage? J'en suis pas sûre. Mais il a encore des flashs de ce voyage. Mmh. Bah, il quittait son père, il y avait un sentiment certainement d'urgence, le train était bourré de nazis. C'était quand même... heureusement, Harry... C'est-à-dire que quand Robert a épousé sa femme, comme Robert était français, il a emmené Lola en France pour l'épouser à Paris, pour qu'elle ait tout de suite la nationalité française. Donc, sur ses papiers, elle était française. Et Harry, quand il est né à Vienne, ils l'ont déclaré au consulat français. Donc, il était français. Voilà. Mmh. Il n'était ni autrichien, ni allemand. Et pour le moment, on notait pas encore que les gens étaient juifs ou pas. Donc, ça les protégeait un peu.
Mmh. Et alors, la décision, finalement, de faire commenter ces images par Harry, comment elle est venue, en fait? Parce que vous aviez d'autres sources, peut-être, aussi. Vous aviez eu Lola.
J'avais Lola, mais Lola commençait vraiment à être trop âgée. Je me suis posé la question un petit moment. J'ai d'abord réfléchi comment faire. Est-ce que je prends Lola? Est-ce que je fais parler Lola et Harry? Et puis, petit à petit, ça s'est construit comme ça. Je me suis dit, moi, je raconte, disons, l'histoire familiale. Et Harry est là pour donner des détails, raconter des souvenirs, être beaucoup plus dans l'intime et aussi dans une réflexion... Avec une conscience politique, je dirais.
Oui, c'est-à-dire qu'il fait très fréquemment des va-et-vient entre cette période d'exil et finalement la situation actuelle en France, le problème des réfugiés. Donc il fait effectivement, il fait le parallèle et finalement, c'est un peu ça le fil conducteur du film aussi. Ouais. C'est comment ces exils l'ont construit et l'ont amené à être ce qu'il est aujourd'hui.
Mais je voulais absolument que le film, évidemment... s'ouvre sur l'exil aujourd'hui, comment on traite les exilés aujourd'hui. C'était inévitable, forcément. Et Harry fait partie de la Ligue des droits de l'homme. Donc, c'est un militant qui aide des gens.
Oui. Donc, il y avait un fond extrêmement riche d'images. Est-ce que vous avez utilisé quelle proportion des images du fond que vous avez trouvé?
Les trois quarts, je dirais.
Les trois quarts.
Ouais. J'ai utilisé ce qu'il y avait de plus marquant et pour le film, en fait. Parce que tout ce que j'ai laissé de côté, avec regret, bien sûr, hein, mais j'étais tenue de faire un 52 minutes. Mm-hmm. Donc, j'ai laissé des images de côté. Et ce que j'ai laissé de côté, c'est beaucoup plus des moments encore de famille, quoi. Donc, oui. J'ai essayé de faire, de jongler, de faire une balance entre ce qui était familial et ce qui l'était moins.
Mm. Mm. Et ces archives sont consultables par tout le monde au Forum des Images.
Oui,
sinon,
tout
en fait.
On
on a accès à ces. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Mm. Et il y a d'autres. Est-ce qu'il y a d'autres, comme ça, d'autres sources d'archives familiales que tout le monde peut consulter là-bas?
Au Forum des Images, il y a énormément d'archives. Il y a. Alors, tout n'est pas dans la salle des collections. Mais là, je dirais qu'il y a une cinquantaine de fonds dans la salle des collections, peut-être un peu plus. Et j'ai pas encore terminé le travail de valorisation pour que tout ce qu'on a sur nos étagères et qui n'est pas visible au public puisse l'être dans la salle des collections et sur le site du Forum des Images.
Et vous êtes à la recherche justement de que si parmi nos auditeurs il y a des gens qui ont des archives.
Malheureusement, on fait plus de collecte pour le moment pour des questions budgétaires.
D'accord. Voilà. Je sais que ça intéressera le mémorial de la Shoah, s'il y a des gens qui nous écoutent, parce qu'eux, ils sont vraiment preneurs, et y compris d'archives filmées. Et justement, est-ce que vous pourriez nous préciser en quoi ces archives-là sont particulièrement précieuses, vous qui voyez plein d'autres films
Elles sont précieuses parce qu'il y a une dimension historique quand même derrière, qu'il y a une famille qui n'est pas n'importe quelle famille, qui est quand même une famille juive, qui est en train de fuir le nazisme. Et on sait après qu'elle fuyait aussi, malheureusement, la Shoah. Ça, ils ne le savaient pas en partant, mais bon.
D'ailleurs, c'est mis aussi à leur retour, en fait. Hein. Il y a toute cette séquence où vous racontez aussi les disparus, avec aussi une sorte de pèlerinage où ils se rendent devant Lucien de Hirsch pour essayer de voir la plaque commémorative où il y a la
Rosalie. Oui, puis son oncle, il avait deux oncles qui travaillaient passage des singes dans le Marais. Donc, on était en plein cœur du Marais. Il avait son oncle David qui était imprimeur et son oncle Noam qui était il était fondeur en métaux précieux. Voilà. Donc ils étaient en plein milieu du Marais quand ils sont en tout cas Noam est parti aux États-Unis, mais David lui et Mania sont partis se cacher en Auvergne pendant la guerre. Et c'est là que Harry allant voir ses oncles régulièrement. S'est bien rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ce quartier. Il n'y avait plus personne. Qu'il y avait vraiment une ambiance très, très pesante.
Et d'ailleurs, à un moment, Harry dit en commentaire « Je ne savais même pas que j'étais juif. » Moi, je me suis posé la question, c'était une famille juive, mais qu'est-ce qui faisait qu'elle était juive? Est-ce qu'ils étaient pratiquants? Est-ce qu'ils avaient des rites? Est-ce qu'il y en avait qui parlaient yiddish? Tout ça, en fait... On ne sait pas trop. Alors, il n'y a pas le son. C'est vrai que le son, c'est important dans ces cas-là. Enfin, le son des images, le langage. Mais,
Alors, sa tante Mania parlait yiddish. Elle était roumaine, je crois, et polonaise. Et elle parlait yiddish. Elle chantait en yiddish. Hein, celle qu'on entend chanter un moment donné.
Celle qu'on voit,
La femme de David. Noam était pratiquant, on va dire, mais c'était pas une famille foncièrement pratiquante. Harry m'a dit qu'il a fait sa bar mitzvah pour faire plaisir à sa grand-mère. Il y avait pas de en tout cas lui avec ses parents, il y avait pas de pratique du tout quoi. Donc il y avait juste la fête les fêtes de Pâques et Kippour, mais c'est tout.
Parce qu'il raconte cet épisode à New York, où tout d'un coup, c'est à New York qu'il découvre l'antisémitisme. Ouais. Et où il réalise qu'il est juif, alors que pourtant, il a dû fuir avec sa famille. Ouais. Donc, On se demande aussi comment on en parlait dans la famille, en fait. Est-ce qu'on protégeait, enfin voilà, à l'image du film, est-ce qu'on essayait de protéger un peu les enfants? Parce qu'on voit que la mère est extrêmement... elle est très entourante, enfin, avec son fils. Il semble être très protégé, en fait.
La classe dans laquelle il était a découvert qu'il était juif parce que... C'est pas raconté dans le film pour X raisons, mais... Ça sera dans les bonus du DVD, si on fait un DVD. Harry raconte à un moment donné que dans le programme, l'institutrice ou le professeur a parlé de justement de ce qui se passait un petit peu en Allemagne, etc. Et Harry a senti que la classe... il avait l'impression qu'il prenait ça comme un film lointain. Il se passe des choses, mais c'est pas près de chez nous, voilà. Et il s'est dit, je vais quand même leur montrer ce que ça peut faire que tout d'un coup voir une ville qui est transformée du jour au lendemain, qui est envahie du jour au lendemain, etc. Et il a amené le projecteur et la bobine de l'Anschluss à l'école.
Ah, ça, c'est un épisode vraiment intéressant.
Et là, les gamins, il m'a dit, il y en a quelques-uns qui se sont pris une claque quand même. Mais ça n'a pas empêché qu'il y en ait un à la sortie de l'école qui lui a dit, t'es qu'un sale juif, retourne dans ton pays. Quand même, hein. Mais ça, c'était l'antisémitisme diffus des parents et qui, malheureusement, à l'époque, était présent, mais... C'était tellement présent en Europe, en France, aux États-Unis. C'était presque normal, c'est horrible de dire ça, mais c'était presque normal d'être antisémite à l'époque.
Donc en fait, c'est intéressant l'utilisation de ces images. C'est-à-dire qu'il se sert des images tournées par son père pour avertir quand les autres de ce qui se passe.
Ouais.
Donc finalement, voilà, il s'est réapproprié les images du père.
Ouais. Mais je crois qu'il a eu une conscience... Déjà, parce que là aussi, il y a une conscience politique, je dirais. Et j'ai pas mis cette séquence parce qu'on était... moi je bafouillais, Harry bafouillait. L'enregistrement n'était pas formidable. Donc, j'aurais pu le réinterroger, refaire la séquence. Mais ça ne se racontait pas d'une manière fluide. Donc, du coup, j'ai préféré... mettre en valeur plus la séquence qui lui était arrivée dans la rue.
Oui, c'est vrai qu'elle est très frappante.
Comme ça,
elle est aussi très frappante, parce que les images sont assez parlantes, en fait. C'est-à-dire, c'est pas les images de la scène, mais les images qui servent de support au récit, finalement, fonctionnent très, très bien à ce moment-là, en fait. En fait, le père a tourné de quoi raconter sa vie pour son fils, son enfance. Il a permis au fils de raconter son enfance.
Ouais. Et encore aux États-Unis, il filmait beaucoup, beaucoup moins parce qu'il travaillait énormément, comme un fou. Harry ne le voyait jamais pratiquement. Il rentrait tous les soirs à 10h. Il avait, 5 jours de congé par an, quelque chose comme ça. Donc, il devait avoir le dimanche après-midi. C'est tout. Hein. C'était pas les congés de maintenant. Quoi.
Magali Mine, je vous remercie.
Merci à vous.
Votre film, qui a reçu le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, sera diffusé sur la chaîne Toute l'Histoire ce soir, 3 décembre à 22h45. Et il sera également projeté au Forum des images, mardi 5 décembre à 19h. C'était Mémoire Vive, l'émission est podcastable sur le site mémoirevive.net et sur l'appli de RCJ.